C'est avec très grand plaisir que j'inaugure ce nouveau cycle des conférences de la Bibliothèque des Amis de Lastrousseau qui, cette année, est consacré exclusivement aux romans populaires, tant il y a de choses à dire. Et je me demande même si une année y suffira, parce que j'ai l'heureuse surprise que beaucoup de conférenciers se manifestent, et j'en suis fort heureuse. Alors pourquoi le roman populaire? Tout simplement parce que je rappelle que dans les statuts de la bibliothèque, en 1861, il était indiqué qu'on allait acheter des livres pour l'instruction et le délassement. Et je dois dire que les organisateurs, les pionniers de la bibliothèque ont été quelque peu déçus parce qu'ils imaginaient que l'instruction l'emporterait et c'est finalement le délassement qui a gagné. Si vous observez autour de vous, vous verrez combien nous avons de romans et combien précisément nous avons ce qu'on peut appeler des romans populaires. Donc énormément de romans populaires dans cette bibliothèque, donc c'est lui rendre justice que d'organiser ce cycle. Et nous avons la très grande chance d'accueillir ce soir Daniel Camper, spécialiste s'il en est du roman populaire, qui consacre tous ses travaux au roman, et plus particulièrement au roman populaire. Vous avez fondé par exemple le Centre Jules Verne, si je ne m'abuse. Voilà. Vous êtes un des grands piliers de l'association des Amis du roman populaire, avec lequel nous sommes ravis bien entendu de travailler désormais. Vous animez avec d'autres personnes la revue Rocambole, qui est absolument formidable, j'espère que vous la connaissez tous. Le dernier numéro est consacré
aux méchants.
Un titre fort alléchant, pour la rime. Voilà. Puis alors, vous avez écrit récemment une somme aux presses universitaires de la Sorbonne, justement, qui a pour titre, tout simplement, mais c'est beaucoup dire, les romans populaires. Et c'est ce dont vous allez nous parler ce soir. Alors, vous avez accepté d'inaugurer ce cycle. Vous reviendrez la fois prochaine, donc on va vous revoir en novembre, mais je suis vraiment très contente que vous ayez accepté d'inaugurer ce cycle et d'essayer de nous dire un peu ce qu'on doit entendre par roman populaire. Et là, vous allez nous expliquer pourquoi on peut en parler, pourquoi il est aussi important et pourquoi, depuis une vingtaine d'années, on a quand même redonné ses lettres de noblesse à ce fameux roman populaire.
Bien, merci pour cet accueil. Et moi aussi, je suis très heureux de me retrouver dans ce lieu tout à fait symbolique de la culture populaire, dans un sens plus large encore, puisque c'était à la fois l'éducation qui devait être entreprise ici, mais aussi la distraction. Et c'est vrai qu'elles ne sont peut-être pas toujours d'ailleurs complètement séparables, elles vont parfois ensemble, comme on pourra peut-être l'évoquer. Donc ce que je me propose, si vous voulez, comme c'est une sorte de séance d'introduction, de présentation, et qu'il y aura par la suite d'autres conférences qui seront plus précises. Et donc, comme le disait Agnès à l'instant, la prochaine fois, le 22 novembre, je reviendrai sur un aspect qui est la naissance du roman feuilleton avec Alexandre Dumas et Eugène Sue dans les années 1830. Puis d'autres membres de l'association, spécialistes aussi de certains auteurs, viendront parler du roman populaire sous le Second Empire, par exemple, ou bien sous la Troisième République, ou bien le genre du roman d'aventure aussi qui s'est particulièrement développé au XIXe siècle. Alors la question effectivement d'une définition, et c'est toujours très compliqué d'en avancer une. Pendant des années d'ailleurs, je me disais c'est une tâche impossible. Parce qu'en fait, le roman populaire, je préfère maintenant employer le pluriel et dire les romans populaires, sont plutôt un phénomène littéraire. C'est-à-dire, ça n'est pas un genre au sens strict du mot, comme on peut dire qu'il y a le roman réaliste au XIXe siècle avec Flaubert, Stendhal, Balzac, le roman policier, le roman d'aventure, qui eux sont bien des genres faciles à définir. Les romans populaires, c'est plutôt un phénomène littéraire qui est né au XIXe siècle et qui se poursuit encore aujourd'hui, d'ailleurs, sous des formes assez proches parfois. Donc c'est un phénomène de grande ampleur qui est apparu, comme nous allons le voir, au début du XIXe siècle, qui me semble est spécifique aussi à la France, tout au moins dans l'ampleur qu'il a pu prendre par rapport à ce que l'on peut voir dans d'autres pays voisins, comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, qui ont aussi des romans populaires. Mais en France, il y a des circonstances particulières qui tiennent à la Révolution française et à une demande d'un public nouveau, de lecteurs, qui étaient avides d'avoir des œuvres qui les touchent, qui les intéressent. Et donc, pour ces nouveaux lecteurs, il a fallu trouver des textes nouveaux et des supports nouveaux. Ce sera un petit peu le fil conducteur. Je vais essayer de montrer comment, au fil du XIXe siècle, ont été inventées ainsi des formules pour toucher tous ces lecteurs populaires, souvent peu fortunés, avec des formules parfois connues, d'autres un peu moins peut-être. Et j'accompagnerai cela de quelques documents concrets, on va voir véritablement des journaux, des publications de l'époque. Donc je dirais qu'un roman populaire, c'est une œuvre de fiction d'abord, c'est bien un roman qui présente une intrigue avec des personnages, intrigue plus ou moins inspirée de la réalité, mais qui peut parfois s'en éloigner beaucoup, qui essaie de toucher un large public et le plus large possible. Cette notion de popularité, à mon avis, elle est là. Et la conséquence qui va très vite apparaître par rapport à cette idée de toucher un large public, c'est que bien souvent, ces œuvres ne vont pas être considérées comme des œuvres importantes, ne relevant pas peut-être de la littérature telle qu'on pouvait la concevoir dans certains cercles fermés. Et même parfois, il y aura des exclusions. On estimera que ces romans ne font pas partie de la littérature. S'intéresser aux romans populaires, c'est s'intéresser aussi à toutes ces frontières qui apparaissent dans des jugements. Et je dirais que là aussi, la France est un pays un petit peu particulier. Peut-être cet héritage de Descartes, on aime bien classer, mettre dans des catégories. Et plus nettement que dans d'autres pays, peut-être faire des différences en disant « Ici, nous avons affaire à la grande littérature, Stendhal, Balzac, Zola, Flaubert. » Et puis là, on a autre chose qu'on va même parfois appeler de la paralittérature, hein, c'est-à-dire on est à côté, mais c'est une appellation assez dévalorisante finalement qui est apparue au XXe siècle. Et le paradoxe, c'est que en fait la littérature populaire, les romans populaires ont été très lus, très nombreux à apparaître, et je pense qu'on pourrait dire que c'est à peu près 90 à 95% des romans parus au XIXe siècle qui entrent dans la catégorie roman populaire, et la littérature, celle qu'on apprend à l'école, au lycée, elle représente 5 à 10% de ce qui a été publié au XIXe siècle. Il y a donc deux conceptions qui vont apparaître peu à peu, et j'essaierai d'en montrer aussi les étapes, deux conceptions où, d'un côté, des auteurs qu'on pourrait qualifier d'élitistes vont estimer que la littérature est réservée à un petit groupe, une petite élite de lecteurs, et vous connaissez sans doute Stendhal qui va dédier La Chartreuse de Parme à précisément ce qu'il va appeler ce petit groupe de lecteurs, The Happy Few, hein, le tout petit nombre de lecteurs capables d'apprécier ce roman, alors que nous aurons des romanciers qui, eux, vont s'adresser à un grand nombre. Donc sans avoir la prétention d'en dresser un panorama complet, puisque je vais ici simplement donner quelques étapes, je m'arrêterai peut-être sur quelques œuvres, quelques moments, quelques personnages qui vont marquer cette histoire des romans populaires au XIXe siècle. Alors ce lieu me paraît tout à fait adapté à l'évocation de ce sujet. On peut imaginer au XIXe siècle les cabinets de lecture tels qu'ils s'ouvraient et déjà à la fin du XVIIIe siècle, hein, proposant à leurs abonnés des ouvrages que l'on pouvait lire sur place. Pour certains lecteurs, la possibilité de les emporter aussi chez soi. Et puis, ce qui va aussi être un phénomène du XIXe siècle, c'est le développement de la presse, et certains cabinets de lecture d'ailleurs vont s'adapter en s'abonnant à ces journaux destinés eux aussi à un large public. C'est l'année 1836 qui apparaît comme un grand moment. 1836, nous sommes en France à une époque où le mouvement romantique est en train de s'installer, en particulier, vous le savez, sur les scènes de théâtre. Il y a eu les batailles qui ont accompagné des représentations de certaines pièces. Alexandre Dumas a présenté un premier drame romantique en 1829 qui s'appelle Henri III et sa cour. Et puis la bataille véritablement a eu lieu en 1830 avec Hernani de Victor Hugo, qui a été une véritable bataille, puisqu'on sait que dans la salle s'opposaient les partisans du théâtre classique et les partisans du drame romantique, et même avec des échanges de gros mots et même de coups, semble-t-il. Ça a été un véritable combat. Et il me semble qu'il y a également en parallèle un combat qui va se livrer, peut-être moins connu, pour que le roman devienne une lecture moins méprisée qu'il ne peut l'être au début du XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, le roman est considéré comme un genre très inférieur à la poésie et au théâtre, sans doute plutôt destiné effectivement à ces nouveaux lecteurs, à des classes populaires, destinés aux femmes aussi, qui à l'époque ont un statut encore très inférieur à celui des hommes, Et donc, cette bataille du roman populaire, c'est aussi la bataille du roman qui va, au fil du XIXe siècle, s'imposer comme un genre, peut-être devenir d'ailleurs le genre le plus important du XIXe siècle. Alors, que se passe-t-il en 1836? C'est une année charnière, puisque auparavant, en France, il existait une presse d'opinion, des journaux comme le Journal des Débats, qui s'adressait à un public relativement intéressé par les discussions au Parlement, mais pas un public très large. Hein, c'était un nombre d'abonnés relativement restreint, à peu près 1000 à 2000 abonnés. Et il est venu l'idée à un entrepreneur de presse qui s'appelle Émile de Girardin de lancer un journal quotidien à petit prix, donc destiné à un public beaucoup plus large, qui aura les moyens de s'abonner. On pouvait s'abonner pour 3 mois à l'époque ou pour 6 mois à ces journaux. Girardin va profiter de techniques nouvelles qui permettent, dans les années 1830, d'imprimer un journal très rapidement, c'est-à-dire qu'on peut écrire les articles jusqu'en fin de journée. On porte les articles chez l'imprimeur qui les compose, qui imprime très vite grâce à des presses nouvelles qui sont arrivées dans les imprimeries. Le journal peut être donc imprimé dans la nuit, plié, mis sous bande et déposé chez les abonnés le lendemain matin. Donc, ce qui représente un temps très réduit entre le moment où le texte est écrit et où il arrive chez le lecteur. Et donc, Dutac et Girardin vont décider de lancer un nouveau journal qui va s'appeler La Presse, tout simplement La Presse, avec l'idée de toucher un large public et donc d'ouvrir ce journal à la publicité qui va en payer en partie le coût, et puis d'ouvrir peut-être aussi les colonnes du journal à la littérature. Et donc Girardin va contacter des auteurs de l'époque connus pour certains d'entre eux par leur carrière théâtrale, Alexandre Dumas, Eugène Sue. Il va contacter Balzac aussi, qui a commencé à publier des romans, Frédéric Soulier. Et Girardin et Dutac vont d'ailleurs se disputer dans la préparation de leur projet, et au lieu de lancer un journal en 1836, il va y avoir deux journaux concurrents, La Presse de Girardin et Le Siècle, lancé par Armand Dutac. Tous les deux vont paraître exactement le même jour, 1er juillet 1836, et donc chez les abonnés vont arriver l'un ou l'autre, hein, selon qu'ils auront fait le choix. Et donc j'ai apporté ici un document, alors qui n'est pas de 1836, mais 1840, enfin, nous ne sommes pas très loin, mais qui nous donne une idée de la manière dont se présentait le journal, Le Siècle ou La Presse. Nous sommes quasiment dans la même présentation, avec donc un format de journal quotidien qui est à peu près le format des journaux d'aujourd'hui. Le Monde, Libération sont à peu près dans ce format-là. La grande différence, c'est qu'on a ici que 4 pages, alors que nos journaux aujourd'hui sont beaucoup plus épais, plus copieux. Nous voyons que la publicité va occuper la 4e page. Et puis, ce qui est intéressant, donc, c'est le découpage de la page, la première page, avec donc le titre qui va s'étaler en haut, les renseignements pratiques, le coût de l'abonnement, vous le verrez, 10 francs pour un trimestre. Bon, ce qui n'est pas très élevé, 10 francs, c'est ce que gagne à peu près un bon ouvrier en 3 à 4 jours. Alors bien sûr, un ouvrier ne va pas consacrer 10 francs à s'abonner parce que ça sera un petit peu coûteux et qu'il préfère d'abord nourrir sa famille et se loger. Mais pour les gens des classes moyennes, comme on dit aujourd'hui, ce sera une dépense tout à fait à leur portée. Et puis dans les journaux de l'époque, et Dutac et Girardin vont reprendre cette formule, il y a la partie du bas de la première page qui s'appelle le feuilleton. Et c'est là que l'on a des comptes rendus de pièces de théâtre, donc ce qu'on appelle le feuilleton dramatique, des comptes rendus de livres, donc le feuilleton littéraire, des comptes rendus d'exposition, éventuellement ce qu'on va appeler le feuilleton artistique. Et l'idée va être de publier des textes littéraires dans cet endroit-là aussi. Et donc on va l'appeler le roman feuilleton, hein, puisque feuilleton c'est le nom de cet emplacement. Et le nom de roman feuilleton va d'ailleurs devenir une véritable appellation, à tel point que parfois on le confond avec le nom de roman populaire. On parle parfois de roman feuilleton plutôt que de roman populaire, ce qui n'est pas tout à fait exact. Vous verrez qu'ici on a d'ailleurs un texte d'Alexandre Dumas qui est publié dans le feuilleton de ce journal. Ce qui est assez frappant, c'est de se rendre compte que l'invention du roman à épisode, du roman feuilleton, ne se fait pas d'un seul coup. C'est-à-dire que ça n'est pas dès le 1er juillet 1836 que l'on va trouver ces romans à suivre que l'on connaît aujourd'hui. Au départ, Girardin va demander à Alexandre Dumas qu'il pourrait proposer dans cet endroit-là. Et Dumas, qui est passionné d'histoire, il a découvert les ouvrages historiques que l'on publie depuis le début du XIXe siècle, s'intéresse à différents épisodes de l'histoire de France, et il propose à Girardin de publier des épisodes romancés de la guerre de Cent Ans. Et donc, pendant quelques semaines, à partir du mois de juillet 1836, les lecteurs de la presse vont trouver ces épisodes signés Alexandre Dumas, des scènes historiques de la guerre de Cent Ans, qui sont donc une sorte déjà presque de roman feuilleton, même si c'est de l'histoire romancée plutôt que véritablement du roman. Et puis Alexandre Dumas va découvrir que cette formule plaît au lecteur. Il y a sans doute du courrier qu'on peut imaginer, des abonnés qui réagissent de manière favorable en disant « c'est intéressant, nous en voulons encore ». Et donc il va y avoir une demande de plus en plus forte. Et en 1838, Alexandre Dumas va proposer cette fois un roman beaucoup plus long, un véritable roman, qui va paraître sur 2 mois, qui s'appelle « Le capitaine Paul ». Et on sait que pendant la publication, donc qui s'étale de mai-juin 1838, alors il faut penser toujours que les journaux vivent beaucoup de leurs abonnés. Juin, c'est la fin du deuxième trimestre, donc à un moment où les abonnés sont invités à se réabonner pour le troisième trimestre. Et donc il est important pour le responsable du journal de savoir qu'il va y avoir un feuilleton qui plaît à ses lecteurs et qui va les amener à se réabonner pour 3 mois à nouveau. Et donc ce capitaine Paul d'Alexandre Dumas aurait fait gagner de nombreux abonnés supplémentaires. Alors, on avance parfois des chiffres un peu étonnants, mais on estime que le nombre des abonnés aurait pu passer de 11 000 à 30 000 en quelques années, entre 1836 et 1838, donc ce qui veut dire tripler le nombre des abonnés. Nous allons voir arriver, mais je ne vais pas trop détailler tous ces romans qui vont être publiés, Eugène Sue, qui publie aussi dans des journaux, et dans la presse, Eugène Sue va publier un roman qui s'appelle Mathilde, premier roman peut-être à déclencher de manière importante des courriers de lecteurs, puisque c'est un phénomène sur lequel je reviendrai la prochaine fois. Les mystères de Paris vont être l'occasion pour des milliers de lecteurs d'écrire au journal, de réagir à ce feuilleton qui paraît en 1842 et qui, pour beaucoup de lecteurs, leur parle d'autant plus que les mystères de Paris, c'est une représentation du peuple parisien avec ses différentes couches et surtout du petit peuple, des couches les plus populaires, les petits ouvriers, les artisans, les gens très pauvres, même les familles qui essaient de survivre avec très peu de moyens. Et beaucoup des lecteurs vont donc se retrouver dans les personnages du roman, écrivant à l'auteur, écrivant au journal, et provoquant aussi, il faut le dire, la jalousie d'autres romanciers, comme Balzac par exemple, qui va devenir très jaloux du succès d'Eugène Sue et d'Alexandre Dumas. Donc ce phénomène du roman feuilleton, il est intéressant puisqu'il va déclencher une sorte de nouvelle relation entre le romancier, le roman et ses lecteurs, un phénomène auquel jusque-là on n'avait jamais eu affaire dans la littérature, c'est-à-dire les lecteurs qui réagissent, qui se manifestent auprès de l'auteur et qui font part de leur plaisir, de leur frustration parfois, de remarques, hein, qui, dans le cas des Mystères de Paris, comme nous le verrons, peut même amener l'auteur à modifier un petit peu son projet, à transformer son roman en une sorte de porte-parole des revendications sociales de l'époque. Donc, si on était un petit peu anachronique, on pourrait dire qu'il y a une sorte de pipolisation d'Eugène Sue, hein, c'est-à-dire le courrier des lecteurs, des attroupements qui se produisent au moment où le journal publie un nouveau feuilleton et les lecteurs qui se précipitent pour être les premiers à le lire au jour le jour. Ce que l'on verra aussi, ce sont des objets dérivés qui sont fabriqués, comme c'est le cas aujourd'hui avec les personnages qui sont représentés sous forme de figurines, ou bien on va donner le nom d'un personnage à un plat, un gâteau, une boisson, des cigares, etc. Donc il y a un véritable phénomène qui sort du champ littéraire et qui va toucher d'autres secteurs. Et à partir de cette année 1836 et des années qui suivent, on arrive donc en 1842 avec le phénomène des Mystères de Paris auquel je faisais allusion. Et à partir de là, on pourrait presque parler d'un âge d'or du roman populaire qui va durer quelques années, à partir de 1842 jusqu'aux années 1848. Nous allons assister pendant ces quelques années à la publication de très grands romans. Donc Les Mystères de Paris, je n'y reviens pas. Les Mystères de Londres, de Paul Féval, dont on voit bien que le titre s'inspire, bien sûr, du succès des Mystères de Paris. Et on va d'ailleurs avoir toute une série de romans qui, chacun, vont se placer dans une capitale différente. Les Mystères de Madrid, les Mystères de New York. Et puis après, on va passer dans d'autres villes, les Mystères de Marseille, les Mystères de Lyon. Puis on aura les nouveaux mystères de Paris. Bon, ça va être un titre qui se décline ainsi en toute une série de possibilités. Et puis, il y aura les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, également en 1844. Le juif errant d'Eugène Sue, en 1844-45. Le comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas, 1844-45. La reine Margot de Dumas, 1845. Frédéric Soulier qui va publier Les Drames inconnus. Dumas va reprendre ses Trois Mousquetaires dans 20 ans après, aussi en 1845. Et puis dans Le Vicomte de Bragelonne en 1847-48. Il y aura aussi Le Chevalier de Maison Rouge de Dumas, La Comtesse de Montrion de Soulier. Et tous ces romans donc vont faire que les romans populaires occupent tous les rez-de-chaussée, comme on dit, tous les feuilletons, tous les bas de page de tous les journaux de l'époque, chacun s'y met, et il devient même impossible pour un journal quotidien désormais de paraître sans proposer à ses lecteurs un roman feuilleton, hein, si les abonnés aussitôt s'en vont et quittent ce journal qui ne leur propose pas cette lecture. Le roman feuilleton, c'est un véritable phénomène, donc qui est sans doute le premier, peut-être le plus important, qui va être à l'origine de la diffusion des romans populaires, mais il y aura d'autres formes de publication, en particulier ce que l'on va appeler les livraisons. Alors les livraisons, c'est la publication de cahiers, qui sont souvent des cahiers de 8 pages, parfois 16 pages, et on va ainsi pouvoir découper un roman en plusieurs possibilités de parution. Chaque semaine, les lecteurs intéressés pourront acheter un cahier de 8 pages et au bout d'un certain temps, selon la longueur de l'œuvre, ils auront une œuvre complète en 4, 5, 10, 20 cahiers parfois. Alors ici, l'exemple que j'ai trouvé, c'est un roman d'Alexandre Dumas qui est assez court puisque en fait en 3 ou 4 cahiers de 8 pages chacun, avec une illustration en couverture, le texte sur deux colonnes, alors ce qui fait gagner de la place, hein, puisqu'on a un petit caractère. Si l'imprimeur avait choisi de disposer sur une colonne, il aurait été obligé de passer à un corps plus élevé, et donc finalement de perdre de la place, mais sur deux colonnes ça passe très bien. Toujours des illustrations, là aussi hein, l'image accompagne souvent le texte, et puis on arrive ainsi à 8 pages, une dernière illustration, et puis on commence un deuxième cahier. Et les acheteurs pouvaient ensuite se procurer une couverture, ce qui permettait de réunir le livre et de l'avoir ainsi comme un livre, hein, avec un format un petit peu différent des livres auxquels nous sommes habitués aujourd'hui, mais qui est un peu un intermédiaire entre le format du livre et le format du journal. Et puis bien sûr, la publicité, elle est toujours présente. Mais ici, c'est de la publicité pour d'autres œuvres, les œuvres d'Alexandre Dumas, de Balzac, de Eugène Sue, Victor Hugo, George Sand, ce sont les grands romanciers de l'époque. Et je dirais qu'ici, on ne fait pas de différence. Vous voyez, on n'a pas encore distingué ceux qui seraient la grande littérature et puis ce qui serait les romans populaires. Il n'y a pas à l'époque de livres, de volumes, qui soient véritablement de l'édition populaire. Les volumes, lorsque un roman est paru en feuilleton dans un quotidien, paraissent dans des livres qui sont beaucoup plus coûteux. En général, les volumes sont vendus 3-4 francs. Certains vont essayer de baisser un petit peu les prix, mais il va falloir attendre les années 1880 pour avoir véritablement des collections à petit prix. Un auteur va essayer aussi d'inventer une autre, un éditeur va essayer d'inventer une autre formule qui sera le troisième support que l'on va voir très vite arriver en France. C'est ce que l'on va appeler les journaux romans. Journaux romans, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme pour les fascicules, un roman que l'on achète en plusieurs fois, on aura plusieurs romans que l'on va acheter en plusieurs fois, là aussi. Et donc, un roman journal va se présenter également sous la forme de cahier, avec un titre, comme celui-ci, « Les grands romans illustrés du dimanche ». L'illustration, toujours présente, et puis un premier roman commence, qui va occuper quelques pages, toujours la présentation sur deux colonnes, Et puis, au bout de quelques pages, nous allons trouver le début d'un deuxième roman, Les Mignons de la Lune. Alors, malheureusement, là, je n'ai pas trouvé la suite. Hein. Le hasard des recherches fait que très souvent, ces romans journaux, on les trouve sous forme reliée. C'est-à-dire qu'on a 3 mois, 6 mois reliés ensemble, mais très rarement des exemplaires isolés, comme c'est le cas ici. Ça donne quand même une idée de ce type de publication, de petit prix, là aussi, c'était vendu, je crois, 5 centimes le numéro. On sait qu'un domestique était payé 60 centimes par jour, sachant qu'il était nourri et logé. Donc vous voyez, 5 centimes, c'est une petite dépense. Un bon ouvrier gagnait 3 à 4 francs par jour. Bon, encore une fois, ce n'était pas nécessairement les ouvriers qui achetaient ces journaux, mais on pouvait aussi se présenter dans les cabinets de lecture, encore une fois, où là, pour quelques centimes, on pouvait prendre un temps de location et accéder aux livres et aux revues. Alors, il faut signaler aussi une petite parenthèse, une sorte d'essai d'une première collection populaire qui est un phénomène de l'époque, c'est l'extension du réseau de chemin de fer. Les trains commencent à s'installer en France dans les années 1840. Première ligne, vous le savez, c'est Paris-Rouen, et on peut faire le trajet à partir de la fin des années 1840 en 4 heures. On peut aller de Paris à Rouen, ce qui est un grand progrès parce qu'en diligence, on mettait une journée. Et ne parlons pas des voyages plus longs, Paris-Bordeaux, Paris-Marseille, Lille-Marseille, qui demandaient plusieurs journées. Et donc, un éditeur de l'époque qui est bien connu, qui s'appelle Louis Hachette, qui jusque-là était spécialisé dans les ouvrages pour l'école, se dit, les gens qui vont voyager en train vont passer du temps dans ces wagons, et donc vont peut-être avoir besoin de lecture, besoin de livres. Et donc, Louis Hachette va négocier avec les responsables des réseaux de chemin de fer pour installer dans les gares des points où il va vendre ses livres, qui seront donc des points de vente essentiellement au début de ses livres à lui, des livres édités par Hachette, puis peu à peu ces points de vente vont s'ouvrir à d'autres éditeurs. C'est un phénomène intéressant puisque désormais les voyageurs pourront acheter des exemplaires d'une collection qui va s'appeler la bibliothèque des chemins de fer, tout simplement. Alors on va y trouver des romans français, romans classiques, des romans étrangers traduits, des romans qu'on va qualifier de populaires, c'est-à-dire pas des classiques des siècles précédents, mais des livres destinés avant tout à la distraction, des livres pratiques, des guides de voyage en particulier. Et puis, Hachette aura aussi l'idée de se dire il faut proposer aussi des ouvrages pour les enfants. Parce que les enfants qui vont accompagner les parents, il faut aussi qu'ils aient leur lecture. Et donc, il va créer des livres destinés aux enfants. Et chacune de ces séries de livres de la Bibliothèque des Chemins de Fer aura une couverture différente qui va permettre de les distinguer. Et alors, ce qui est amusant, c'est que les livres pour enfants auront une couverture rose. Et au bout de quelques années, 1857, cette bibliothèque rose, destinée aux enfants, elle va prendre son autonomie et elle va devenir la célèbre collection de chez Hachette des livres pour la jeunesse, existant d'ailleurs toujours aujourd'hui. C'est une bibliothèque rose qui a une certaine longévité. Dans cette bibliothèque de chemin de fer, il y aura la volonté aussi d'essayer de vendre à des petits prix, mais on reste à des livres à 2 francs, 3 francs 50, ce qui n'est encore pas toujours à la portée de tout le monde. Mais il y a une tentative aussi pour essayer de faire des livres format de poche, donc facile à emporter, non plus des gros livres reliés qui pouvaient être encombrants pour les voyageurs. Du côté des libraires, on essaie de chercher aussi les moyens de diffuser plus largement les livres, puisque pendant très longtemps, vous le savez, un livre était essentiellement édité par un libraire qui ne le vendait que dans sa librairie. Et donc les éditeurs, puisque c'est un métier qui commence à apparaître dans les années 1840-1850, vont avoir le souci de créer des instruments, des moyens de diffuser leurs livres, et le chemin de fer va jouer aussi là un rôle important en permettant d'envoyer des caisses de livres dans les provinces, dans les grandes villes, de toucher ainsi un public beaucoup plus large qui n'est plus seulement le public parisien. Un autre phénomène, en avançant un peu dans le temps, va se produire dans les années 1860. C'est l'apparition à la fois d'un personnage et, on parlerait aujourd'hui, d'un concept nouveau, d'une idée nouvelle à propos d'un personnage littéraire qui s'appelle Rocambole. Un prochain conférencier reviendra en partie sur ce personnage, mais je voudrais quand même en dire quelques mots pour souligner la nouveauté qu'il va représenter. C'est un personnage qui est au début un personnage secondaire dans un cycle qui s'appelle Les Drames de Paris. C'est un garçon de 14 ans qui apparaît quelques pages dans un premier épisode, puis qui devient un personnage plus important, un personnage de second plan, mais quand même plus important dans un deuxième épisode. Et dès le troisième épisode, il est devenu le personnage central. Donc on a déjà une sorte d'ascension d'un personnage qui, au départ, n'était qu'une sorte de figurant et qui devient peu à peu le héros d'un cycle. Héros noir, puisque Rocambole est un bandit, est un malfaiteur qui n'hésite pas à tuer pour détourner de l'argent, s'approprier tout ce dont il a besoin, et qui va d'ailleurs subir une punition, être envoyé au bagne. Et là, nouvelle transformation du personnage, il va se transformer en un personnage de justicier. Il va donc s'échapper du bagne pour se mettre au service des gens qui sont les victimes qu'il pouvait faire autrefois. C'est-à-dire qu'il va complètement changer ses activités et toutes les ruses qu'il connaît, tous les tours qu'il a appris comme bandit, il va désormais les mettre au service de la justice, essayer de protéger les faibles et les malheureux. L'invention de ce personnage par un écrivain qui s'appelle Ponson du Terrail va coïncider aussi avec le lancement d'une nouvelle presse, qu'on appelle parfois la petite presse, parce qu'elle est d'un format un peu plus petit, elle est un peu l'équivalent du format des romans journaux. Cette petite presse, elle va mettre l'accent aussi sur les faits divers, c'est-à-dire que la première page va être consacrée aux accidents, à raconter des malheurs, des crimes, des vols. Tout ce qui fait le malheur du monde et qui, on le sait encore aujourd'hui, attire parfois les lecteurs. Et puis, ces petits journaux, petite presse, petit journal, va présenter une grande nouveauté en n'étant plus proposé par abonnement, mais vendu au numéro et parfois même vendu dans la rue. Des marchands ambulants vont se promener avec des exemplaires du petit journal en criant « Aujourd'hui, grand crime qui s'est déroulé à Pantin, etc. » et le début des nouvelles aventures de Rocambole. Et donc les lecteurs, là aussi, vont être attirés. Ils vont retrouver, effectivement, le personnage de Rocambole que l'on croyait disparu, que l'on croyait mort, qui va ainsi ressusciter et revenir dans plusieurs épisodes publiés dans ce petit journal ou son concurrent qui apparaît également, qui s'appelle « La Petite Presse ». Et avec ce personnage de Rocambole, il me semble que l'auteur, Ponson du Terrail, découvre le principe de la série, qui aujourd'hui, on le sait, est un phénomène bien connu, c'est-à-dire un personnage qui revient régulièrement, que l'on peut croire parfois disparu, mais qui, toujours, grâce à l'ingéniosité de son auteur, renaît, ou bien, quand il est vraiment mort, c'est son fils qui va lui succéder, ou le petit-fils, éventuellement. On peut avoir toute une génération de personnages. Et c'est ce qui va se produire pour Rocambole, qui va être un véritable phénomène, qui va donc amener cette idée de la série du personnage central autour duquel s'organisent plusieurs romans. On assiste aussi dans ces années 1860, toujours dans la petite presse, c'est le petit journal ou la petite presse ou le petit moniteur, et ils s'appellent tous petits. C'est assez amusant de voir dans ces années 60 que on a l'envie de quelque chose de petit. C'est là aussi que va naître ce qu'on appelle à l'époque le roman judiciaire et qu'on appelle aujourd'hui roman policier. Bon, à l'époque c'est roman judiciaire parce que ce sont les magistrats qui mènent les enquêtes, alors qu'aujourd'hui ce sont plutôt les policiers. C'est déjà le type de roman que l'on connaît aujourd'hui et qui a un grand succès. Émile Gaboriau va lancer le premier, le principe, avec l'affaire Le Rouge en 1865. Donc un meurtre est commis, meurtre mystérieux. La police et le magistrat arrivent sur place et puis vont essayer de deviner ce qui s'est passé. Et la découverte de Gaboriau, c'est que la deuxième partie du roman, c'est un retour en arrière pour reconstituer pourquoi le meurtrier a été amené à tuer et comment il a procédé. Autrement dit, on commence par le crime et puis ensuite on repart en arrière pour reconstituer ce qui s'est passé. Et c'est ce que l'on va retrouver dans le schéma classique par la suite des romans policiers, que ce soit en France, chez les auteurs du XXe siècle ou en Grande-Bretagne, puisque ça va devenir aussi un genre qui se développe dans tous les pays. Alors, arrivé en 1860, le roman est devenu effectivement une lecture très répandue. C'est devenu un genre qui passe facilement dans beaucoup de maisons, qui est diffusé sous ces formes très différentes que nous avons vues, roman feuilleton, roman par fascicule, roman journaux. Et puis c'est tentative de créer des collections populaires, mais qui ne sont pas encore véritablement apparues, et commence aussi à apparaître une séparation entre ces auteurs qui vont viser un public limité, restreint, Flaubert par exemple, qui estimera que dans un roman, il faut presque chercher à ce qu'il n'y ait pas d'intrigue, quasiment pas de personnages, et effacer tout ce qui est le romanesque précisément, alors que les Dumas, Eugène Sue, Féval, Ponson du Terrail, eux, sont avant tout des conteurs, des gens qui racontent des histoires et qui s'inscrivent dans la tradition d'une littérature orale, parfois littérature populaire. Je n'aurai pas le temps de l'évoquer, mais je pense qu'il le sera plus tard dans le cadre des romans d'aventure. Jules Verne apparaît aussi dans ces années 1860. Hein, il va commencer à publier ses premiers romans d'aventure, romans d'anticipation, à partir de 1863 et couvrir toute la fin du 19e siècle. Écraser un peu d'ailleurs d'autres romanciers qui auront à ses côtés parfois des difficultés à se faire connaître et n'auront pas la même célébrité que lui. Je pense à un auteur qui s'appelle André Laurie, que certainement vous connaissez moins que Jules Verne, et qui pourtant écrit des romans très proches, des romans d'aventure, des romans dans lesquels il y a des machines qui sont plus ou moins des anticipations, il y a des romans où des personnages vont sur la Lune, on découvre aussi une vie un peu différente de la nôtre, sous l'eau, des descendants des Atlantes, etc. Et Laurie va certainement souffrir d'écrire en même temps que Jules Verne des romans qui ressemblent un peu à ceux de Jules Verne, et il n'aura jamais le même succès que lui, même aujourd'hui. Jules Verne reste un nom bien plus connu que celui d'André Laurie. On pourrait dire aussi qu'à cette époque s'invente une littérature qui s'appellera plus tard la science-fiction, c'est-à-dire des auteurs qui vont se projeter vers l'avenir, vers un avenir proche, parfois de quelques années, quelques dizaines d'années, ou parfois un avenir plus lointain, 100 ans plus tard, 200 ans, parfois 1000 ans plus tard. On essaiera d'imaginer ainsi le futur et comment vivront les descendants. Le terme de science-fiction que je viens d'employer, il est un peu anachronique en fait. Il va être inventé aux États-Unis en 1926, par un directeur d'une publication qui cherche à qualifier précisément le genre de récit qu'il publie. Et le terme science-fiction, il faudrait dire science fiction, arrivera en France dans les années 1946-47, après la Seconde Guerre mondiale, quand on va découvrir en France les auteurs anglo-saxons qui seront traduits. Mais cette littérature, elle existe déjà en France, donc depuis les années 1880. Bien qu'elle ne s'appelle pas encore science-fiction, on lui a trouvé d'ailleurs dès les années 80 un terme qui d'ailleurs est quasiment équivalent, c'est roman scientifique. Et il va se créer des publications comme le Journal des Voyages qui vont être souvent, alors on pourrait s'attendre à avoir des récits de voyages un peu comme le Tour du Monde, hein, dont vous avez une belle collection ici qui raconte des récits de voyages réels. Mais en fait, le Journal des Voyages va essentiellement raconter des récits de voyages imaginaires et souvent des romans d'anticipation. Ici, nous avons un numéro avec quatre romans qui vont paraître en feuilleton. L'automobile de verre de Paul Divoy, un auteur qui reste connu surtout pour les 5 sous de la Varède. Il y a un deuxième roman, Les gratteurs de ciel de Louis Bousnard. Troisième roman, Le capitaine d'Henrit, Robinson sous-marin. Le capitaine d'Henrit, c'est quelqu'un, un militaire qui s'est spécialisé dans des récits de guerre imaginaire. Et puis un quatrième roman de Maurice Champagne, Les reclus de la mer. Et puis au dos, on fait encore la publicité pour Monsieur Rien, l'histoire d'un homme invisible de Louis Bousnard. Donc vous voyez qu'on est dans une littérature de science-fiction déjà avant la lettre qui apparaît dans ce Journal des Voyages. Alors le Journal des Voyages est créé en 1877 et il va paraître, avec parfois des petits changements, jusque dans les années 1930. Parallèlement, le dernier quart du 19e siècle va être marqué aussi par un développement de la presse, et vous le savez, c'est lié à la Troisième République, la liberté que la presse va connaître alors que sous le Second Empire, il y avait une censure qui s'exerçait encore très fortement, mais après 1870 et encore plus après les lois sur la presse de 1881, il va se développer de très nombreux journaux quotidiens. Des journaux nationaux comme Le Petit Parisien en 1876 ou Le Matin en 1884. Et puis également un phénomène intéressant, c'est que des journaux régionaux vont apparaître Dans la plupart des villes de province, que ce soit d'ailleurs des préfectures ou parfois même des petites villes, il y aura le quotidien local qui va se développer. On va compter à la fin du 19e siècle à peu près 400 journaux en France, ce qui est énorme. Je pense qu'aujourd'hui, le chiffre, on peut le diviser par 10 à peu près. Il ne reste que des grands quotidiens régionaux et les grands quotidiens nationaux, mais la plupart ont disparu. Donc ces 400 journaux quotidiens paraissent quasiment tous avec des romans feuilletons. Alors bien sûr, il y a beaucoup de rééditions, on reprend les classiques d'Eugène Sue, Alexandre Dumas, etc. Mais les grands journaux parisiens, en particulier nationaux, se rendent compte très vite que s'ils proposent trop de romans déjà connus, les lecteurs se lassent et manifestent un mécontentement. Donc on va faire appel quasiment à des romanciers en s'assurant parfois l'exclusivité. Donc un journal va passer un contrat avec un romancier pour dire « Vous nous fournissez chaque année un roman, ou même deux si c'est possible, mais interdiction d'aller publier dans un journal concurrent. » Et donc des romanciers vont ainsi devenir des gens très connus, très bien payés, très célèbres à l'époque, très recherchés. Il y aura une concurrence entre les journaux pour leur proposer des contrats de plus en plus élevés. Et parmi ces romanciers, ce sont des noms qui étaient vraiment, je dirais, l'équivalent des vedettes de la chanson ou du cinéma d'aujourd'hui, hein, des gens très connus, qui distribuaient des autographes, etc. Or, aujourd'hui, ces gens-là sont complètement oubliés, pour la plupart. Je vais vous citer quelques noms, Jules Marie, Xavier de Montépin, Charles Mérouvel, Georges Aunet, les 4-5 romanciers qui étaient les plus recherchés, qui véritablement faisaient vivre la presse de l'époque. Alors parfois, un nom survit pour Jules Marie, Roger Lahonte, un de ses titres les plus célèbres, parfois par des adaptations au théâtre ou au cinéma aussi. Pour Xavier de Montépin, il y a des romans qui mettent souvent en scène des drames conjugaux. Charles Mérouvel aussi va avoir un best-seller, si on peut dire, hein, qui est « Chaste et flétrie », qui paraît en 1889, bon, « Les malheurs d'une femme ». Et un ouvrage qui va être souvent réédité. Et on va voir arriver la quatrième solution trouvée pour diffuser des romans à petit prix auprès d'un large public dans ces années 1880. C'est ce que l'on va appeler les pochettes. Et c'est l'éditeur Rouff qui a l'idée d'inventer ce qu'il va appeler la pochette Rouff. Alors qu'est-ce que c'est que la pochette Rouff ? C'est tout simple, parce qu'en fait il reprend un peu la formule des romans journaux ou des publications par fascicule. Donc la première pochette, vous voyez, elle est gratuite, donc distribuée très largement. Et les suivantes, vendues, prix de 15 centimes, donc encore une fois un prix très peu élevé. Et chaque semaine, on pouvait acheter la pochette avec 4 romans qui étaient publiés en parallèle. Mais on a La Dame en Noir d'Émile Richebourg, avec donc une page de couverture, puisque là c'est le premier numéro, le début du roman, et puis on a un cahier de 8 pages. Un deuxième roman commence, Seul, d'Adolphe d'Emery, même principe, une couverture, et puis 8 pages du début du texte, Le Sonneur de Saint-Méry de Jules Cardoz, toujours le même principe, Le Régiment de Jules Marie. Et alors, comme on veut vraiment attirer les lecteurs, la pochette contient aussi un supplément gratuit dans son premier numéro, Les conseils de la grand-mère, comment être à la mode. Alors, ce qui m'intrigue toujours, c'est que ces romans paraissaient une fois ou deux par semaine et souvent connaissaient plus de 200 pochettes. Ce qui veut dire que, même à supposer que ça paraissait deux fois par semaine, ça veut dire que c'était au moins quasiment 2 ans de publication. Donc il fallait de la patience aux lecteurs, attendre quasiment 2 ans pour avoir la fin du roman qu'ils avaient ainsi commencé à lire. Ça fourmille beaucoup dans ces dernières années du 19e siècle. On voit apparaître aussi une presse désormais qui s'adresse aux jeunes lecteurs, aux enfants. Donc le Petit Français Illustré, journal des écoliers, des écolières. On va commencer à cibler les publics, de même que le public rural. On va essayer de le toucher en créant une publication qui s'appelle « Les veillées des chaumières ». Et puis pour les publics qui travaillent dans les industries, une publication qui s'appelle « L'ouvrier », qui va aussi publier des romans feuilletons. Et donc dans le Petit Français Illustré, il va y avoir là aussi des romans publiés en feuilleton, des romans d'aventure. Et puis un peu d'éducation aussi, hein, parce que comme on s'adresse aux écoliers, aux écolières, bon, il faut leur donner un petit peu de connaissances également, accompagner ce qui se passe à l'école. Et donc dans ces années 1880 apparaissent aussi les premières collections populaires, véritablement, qui sont souvent de petits formats, quasiment de 2 livres de poche, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Un éditeur qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelle Mérican, va créer une petite collection, petite par le format, mais qui va être énorme, parce qu'il y aura des centaines de titres, alors qui sont, je dirais, de toutes sortes. On y trouve à la fois des classiques de la littérature française, de textes étrangers, et puis ici, donc Jules Marie, ces grands auteurs recherchés de la fin du 19e siècle, qui publie un petit roman, Le Boulet d'or, publicité pour la collection. On a également, après la page de titre, une publicité qui paye sans doute en partie aussi la réalisation du livre pour la loterie où on peut gagner donc, et faire œuvre de bienfaisance, hein, puisque c'est l'œuvre de l'allaitement maternel qui propose ainsi des billets. Et à la fin, on a à nouveau aussi de la publicité pour d'autres ouvrages du même éditeur, mais aussi pour Les Chemins de fer, hein, comment passer l'hiver sur la Côte d'Azur. Et au dos du livre aussi, la poudre laxative, la célèbre poudre rocher. Donc voilà un exemple d'un de ces petits livres des années 1890. Et d'autres éditeurs vont proposer à peu près dans les mêmes formats des ouvrages. Ici c'est l'éditeur Fayard, et là l'éditeur Rouff, qui publie alors souvent, donc petit format, petit nombre de pages, on tourne en dessous de la centaine de pages en général. Ce qui, pour certains livres, va obliger d'ailleurs de faire plusieurs volumes. C'est-à-dire qu'on va retrouver le principe d'une publication parfois échelonnée, ou en tout cas la nécessité d'acheter plusieurs volumes si on veut avoir l'ensemble de l'œuvre. Mais les prix sont toujours assez bas, 25 centimes ici le volume. C'est Rouff, donc celui qui fait la pochette, qui lance aussi une petite collection, la Petite Bibliothèque Populaire, dans les années 1880. On y trouve des auteurs qu'aujourd'hui on va qualifier de romanciers populaires, Fenimore Cooper, Paul de Kock, Ponson du Terrail, Émile Richebourg, Eugène Sue, mais la séparation n'est pas encore très nette. On y trouve aussi Balzac, l'abbé Prévost, les contes de Perrault, Voltaire. La notion de populaire n'exclut pas nécessairement les classiques, je sais pas. Alors, je vais peut-être déborder un petit peu, mais à mon avis, nous sommes encore au 19e siècle, dans les premières années 1900, puisque souvent les historiens considèrent que le 19e siècle va jusqu'à la guerre, la Première Guerre mondiale. D'autres, au contraire, arrêtent plus tôt, mais je dirais que du point de vue de l'édition, du point de vue des romans populaires, il y a effectivement une continuité. Et il y a en 1905, alors la création d'une collection importante. Ce sont ces séries de livres qui vont être vendus, gros volume et petit prix, 50 centimes. Le prix va un petit peu évoluer, mais ils vont se fixer souvent à 65 centimes. Mais cette fois, on a 400, 500, 600 pages de texte, et non plus une centaine de lectures. Donc c'est un éditeur qui s'appelle Fayard, qui va décider de lancer une première collection, qui s'appelle Le Livre Populaire, tout simplement, 1905. Et le premier titre, où il va reprendre donc Chaste et flétrie de Charles Mérouvel, pourtant un livre paru déjà il y a plus de 20 ans. C'est lui qui va ouvrir la collection du livre populaire, et d'après ce que l'on dit, 200 000 exemplaires se seraient vendus en une semaine, en 1905, à la sortie du premier titre de cette collection. Par la suite, les éditions Fayard vont proposer 2 titres, 3 titres par mois, parfois 4, hein, donc un rythme assez soutenu, quasiment un livre comme ça par semaine, hein, il faut déjà avoir un petit peu de temps. Une belle couverture illustrée en couleurs qui va représenter une scène et donner donc envie au lecteur de se plonger dans le roman. Et puis, l'intérieur n'est pas toujours très beau parce que ce sont des livres imprimés assez vite, pas toujours bien ancrés ou parfois trop ancrés, il y a parfois ça bave un peu sur certaines pages, d'autres sont un peu pâles. La qualité du papier non plus n'est pas ce qui était recherché. Ce qui était recherché, c'était donner de la lecture du roman à un petit prix, à un public assez important. Ces volumes, en général, ont touché plus de 250 000 lecteurs, et parfois plus, 300 000, 400 000. Dans cette collection de Fayard, il va y avoir des sous-collections qui bientôt vont apparaître. On va publier les œuvres de Ponson du Terrail, les œuvres de Louis Noir aussi, encore un auteur bien oublié, ou bien des séries organisées autour d'un personnage, personnage de Cartouche, par exemple, le bandit du XVIIIe siècle, ou Mandrin, qui est aussi un bandit célèbre. Et puis, il y aura même en 1911, Fantomas, qui va être une œuvre nouvelle, cette fois un roman, publié sous la forme d'un roman par mois par les deux auteurs de ce roman, qui sont Pierre Souvestre et Marcel Alain. Si on regarde un petit peu ce qui se passe donc en ce début de XXe siècle, c'est une multiplication des collections, puisque après Fayard et son livre populaire, il va y avoir d'autres collections, comme je le disais, qui vont limiter, comme celle-ci, qui s'appelle Le Livre Universel. Il va y avoir chez un éditeur qui s'appelle Talandier plusieurs collections qui vont s'appeler Le Livre National, mais avec des sous-séries, l'une qui va s'appeler Le Roman Populaire, l'autre La Bibliothèque des Romans d'Aventure. Et même principe, donc d'une couverture en couleur, un texte pas toujours bien imprimé, mais un nombre de pages important pour que le lecteur en ait pour son argent. De même, Rouff va créer aussi Le Livre Illustré. Il va y avoir aussi un petit éditeur, une famille de Hongrois qui viennent s'installer en France, qui s'appelle Ferenczi, qui vont spécialiser dans ce qu'on va appeler le petit livre, c'est-à-dire des livres de tout petit format, petit nombre de pages, 32 pages, 64 pages. Ces petits livres vont avoir une existence très longue, puisque ces collections qui sont créées dans les années 1907-1908 vont durer jusque dans les années 1950 pour la plupart. Donc multiplication des collections. Et l'autre phénomène, c'est aussi, il me semble, que l'intérêt des lecteurs se porte désormais plus sur les personnages que sur les auteurs. On ne va plus rechercher un roman d'Alexandre Dumas, un roman de Ponson du Terrail, un roman de Jules Marie. On va chercher plutôt les aventures d'Arsène Lupin, les aventures de Rouletabille, Fantomas, etc. Un des phénomènes frappants, c'est que ces noms de personnages vont être parfois plus célèbres que le nom de l'auteur, c'est-à-dire qu'Arsène Lupin sera plus célèbre que Maurice Leblanc, qui est celui qui l'a créé, que Rouletabille va être plus connu que Gaston Leroux, et Fantomas, plus connu aussi que Souvestre et Alain. Et le comble sera même atteint avec des publications anonymes, c'est-à-dire qu'on n'aura même plus de nom d'auteur. Ce qui va être mis en avant, c'est un personnage. Et à partir de 1907, vont arriver en France des fascicules comme celui-ci. C'est un personnage américain qui s'appelle Nick Carter, qui est donc un détective. On est presque déjà dans la mondialisation. Ce sont donc des aventures d'un personnage américain qui vont être écrites et publiées aux États-Unis, arriver en Europe, en Allemagne, chez un éditeur qui est installé à Hambourg, qui s'appelle Eichler, et qui va installer des succursales dans différentes capitales, dont Paris. Et donc Eichler, éditeur allemand, va diffuser en France ces séries qui viennent parfois d'Amérique, qui viennent parfois d'Allemagne, et qui vont donner naissance d'ailleurs aussi à des séries françaises. Alors les personnages sont comme Nick Carter, parfois inspirés de gens qui ont plus ou moins existé, ou on va rencontrer aussi Nat Pinkerton ou Buffalo Bill, qui vont devenir donc des personnages de fiction, et puis d'autres qui sont des personnages inventés. Et ces fascicules, donc, que vous le verrez, hein, n'ont pas de nom d'auteur, ils ne sont pas signés. Ce sont les aventures de Nick Carter, avec toujours le même principe, un bandeau, une belle couverture en couleur pour attirer le lecteur, et puis un format qui sera toujours le même, de 32 pages. Et donc Eichler va multiplier ainsi les personnages, les héros, avec des personnages célèbres, personnages de pirates, personnages d'indiens, des détectives, un peu d'aventures étranges aussi, d'un amage qui mène des enquêtes. Et puis en France, il y aura l'invention de deux héros français qui vont également tenter de s'imposer. Une détective, écrite par un auteur français, Ethel King, alors elle porte un nom un peu américain aussi parce que c'est mieux vu peut-être à côté des Nick Carter et Nat Pinkerton d'avoir aussi un nom à consonance américaine, mais Ethel King est écrit par un écrivain français. Et d'ailleurs, elle s'est sous-titrée le Nick Carter féminin, Ethel King, qui va être aussi un personnage ayant beaucoup d'enquêtes. Et puis, il y a ces autres héros donc, que j'ai mentionnés, Arsène Lupin et Rouletabille en particulier, qui vont s'imposer à cette époque. On va assister à un véritable tournant donc à partir de là, puisque apparaît aussi en parallèle la bande dessinée, hein, les premiers magazines de bande dessinée. On va voir apparaître aussi des personnages, bécassines plutôt destinées aux filles, les pieds nickelés pour les garçons. Donc toute une presse populaire aussi, mais là je dirais que c'est un petit peu davantage la spécificité du XXe siècle plutôt que du XIXe siècle. Et donc, j'en arrive au moment où il faudrait presque conclure, mais je me demande si je peux véritablement conclure après ce petit panorama. Bon, j'ai essayé de m'arrêter sur des phénomènes, des époques, des particularités. J'ai peut-être été parfois un petit peu rapide, mais si vous le voulez, on peut prendre un temps pour revenir, répondre à des questions. Et puis, comme je le disais, il y aura donc d'autres séances qui reviendront sur certains aspects, entre autres donc la naissance du roman feuilleton, le roman à différentes époques aussi, sous le Second Empire, la Troisième République, etc.
Et donc, merci. Merci infiniment. Je ne sais pas si vous avez la même sensation, mais moi je sens que tous les livres sont en train de s'agiter,
de
dire des choses. On a une particularité ici, par exemple, c'est que lorsqu'un livre a beaucoup été aimé, on a un deuxième, un troisième exemplaire, et on voit l'usure du livre.
Oui.
C'est ça qui est passionnant. Hein. Bon,
c'est un,
par exemple,
un
le
moyen de mesure
de
aussi.
Paul de Kock, voilà, est très usé.
Oui.
Alors je pense qu'il y a beaucoup de questions.
On demandait quelle était la place de l'imaginaire colonial dans cette littérature populaire.
Il y a effectivement toute une littérature alors coloniale, c'est-à-dire qu'on raconte les exploits des Français qui vont conquérir des territoires. Et il y a beaucoup de romans d'aventure, surtout, qui portent sur ces questions-là. Assez curieusement, assez peu en Afrique, mais beaucoup en Asie, parce qu'il est assez frappant de voir que beaucoup de romans s'interroge sur l'Asie, parce qu'elle a un côté peut-être plus mystérieux, la civilisation chinoise, la civilisation indiennes aussi ont un côté plus étrange, avec des pratiques qui sont parfois très différentes de ce que les Français de l'époque connaissent. Et donc, beaucoup de romans s'intéressent à l'Asie, à comment découvrir et s'y installer, et comment aussi dominer, bien sûr, ces populations, puisqu'il y a l'idée que l'Europe doit apporter à ces sauvages, entre guillemets, la civilisation et tous ses bienfaits.
Vous avez parlé des publications qui venaient des États-Unis, qui transitaient par l'Allemagne. Mm-hmm. Je voulais savoir si on savait comment on procédait à la traduction, si c'était traduit aux États-Unis, en Allemagne ou en France.
Mm-hmm. Oui. Alors on ne sait pas très bien, mais on a quelques éclairages. Apparemment, l'éditeur allemand faisait appel à des traducteurs en Allemagne, mais peut-être sans doute des gens qui connaissaient bien le français. Mais il y a parfois des surprises, hein, quand on lit de près, on trouve des formules étranges, des barbarismes. Parfois la qualité des traducteurs n'était peut-être pas au rendez-vous. Qui explique aussi pourquoi certains auteurs français ont voulu à leur tour écrire ce genre de fascicules, de séries.
Le nom des traducteurs ne finira jamais, j'imagine.
Non, là on n'a pas retrouvé trace. Alors ce qui est compliqué, c'est que donc Eichler était allemand, s'est installé à Paris en 1907, et puis en 1914, avec le déclenchement de la guerre, Eichler a été expulsé. Et vraisemblablement, les archives ont été perdues, égarées à ce moment-là. Donc c'était un peu dommage, parce que ce serait intéressant de voir comment ça se passait. On a une petite idée, parce que Eichler s'est installé aussi aux Pays-Bas. Là, on sait qu'il faisait appel à des traducteurs sur place, apparemment.
Vous dites que ce roman populaire a été très important en France dès le 19e siècle. Est-ce qu'on peut penser que ce serait dû à l'alphabétisation meilleure des classes populaires, enfin, disons moyennes, en France que dans d'autres pays européens? Par exemple, en Italie, c'est sûr, où l'alphabétisation
oui,
a été très faible.
Je pense que c'est tout à fait lié à cette alphabétisation. Elle a commencé en France au lendemain de la Révolution. Déjà, il y a eu une première campagne d'alphabétisation dès les années 1790. Une deuxième campagne dans les années 1830, une nouvelle encore sous le Second Empire dans les années 1850-60, et puis avec la création de l'école pour tous dans les années 1880, là, à la fin du 19e siècle, quasiment tout le monde savait lire. Alors que dans d'autres pays, alors il n'y a pas eu ces campagnes d'alphabétisation aussi marquées. Bon, chaque pays a évolué de manière différente, hein, c'est vrai. C'est, à mon avis, une des raisons qui explique le développement des romans populaires en France. Même si, en Angleterre, il y a eu aussi beaucoup de publications de romans feuilletons. Dickens, par exemple, écrivait des romans publiés en feuilleton dans des magazines ou dans des journaux. en Allemagne aussi, mais ça n'a pas du tout la même proportion que chez nous. Alors peut-être aussi le développement de la presse lié à des mouvements politiques, des changements de régime, hein, certains journaux se créant pour être des journaux d'opposition, par exemple sous la monarchie, sous le Second Empire. Bon, il y a eu certainement toute une série de circonstances historiques qui expliquent cela.
Malgré tout, dans une certaine mesure, cette littérature modèle la pensée des lecteurs, parce qu'il y a des concepts qui se forment, des modes d'analyse, des idées quelquefois toutes faites, le bon sauvage, le mauvais sauvage. Vous voyez ce que je veux dire, chasse des flétries, enfin, elle traduit de la réalité répandue à cette époque-là, mais en même temps, elle contribue à la former, à lui donner des modes d'expression, elle donne une forme à la pensée populaire. Alors, dans les autres pays où il n'y a pas ce type de littérature, comment s'exprime cette mentalité populaire? Est-ce qu'elle trouve une issue à l'extérieur pour s'exprimer? Est-ce que c'est la chanson?
Là, vous me posez une question à laquelle je serais bien incapable de répondre, mais effectivement, je pense qu'il y a peut-être d'autres formes, la chanson. Oui, là ça demanderait...
Moi j'avais quand même une objection,
oui.
Qui est valable pour la France aussi d'ailleurs, c'est que la lecture, nous on la conçoit comme individuelle, mais il faut savoir qu'elle est collective.
Oui.
C'est-à-dire que par exemple, les romans, ils sont lus avant que tout le monde soit alphabétisé, ils sont lus dans les ateliers d'ouvriers à voix haute.
Oui.
Les ouvriers s'entendent entre eux pour payer un ouvrier
qui va travailler,
je pense que c'est la même chose à l'étranger.
Mais non, parce que si ce type de littérature existe moins... Il y a moins de lecture. Ce que vous dites tendrait à faire penser que donc cette littérature a eu une énorme influence, si vous voulez, en France. Mais dans les pays où elle ne prend pas de forme, si vous voulez.
Elle a quand même existé, par exemple, il me semble, en Italie, en Angleterre, il y a aussi toute une littérature populaire importante. Alors peut-être qu'il va ne pas se développer exactement au même moment, hein, mais on arrive en tout cas... au XXe siècle, avec des situations relativement proches, je pense.
Sur le feuilleton, c'est complètement international.
Oui.
On avait fait un colloque avec Jean-Yves Moyer, c'est partout. Hein.
Oui, c'est partout, oui. Oui, les supports sont différents.
Tous ces auteurs qui écrivent des romans populaires sont tous issus de la bourgeoisie, à part un, Alexis Bouvier, qui est vraiment ouvrier, mais ils sont tous.
Oui.
Et ce
qu'ils
véhiculent dans leur livre, il faut le dire, c'est l'idéologie bourgeoise.
Oui, souvent.
Et après, il y aura, ne serait-ce que le début des mystères de Paris, la manière dont ils parlent du peuple, déjà, c'est l'époque où il était encore socialiste, je ne sais pas.
Il faudrait nuancer, bon, selon aussi les époques, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu toute une littérature, je dirais, édifiante, hein, c'est-à-dire avec une portée morale qui essaie de faire passer des leçons, mais il y a aussi une littérature populaire subversive. Hein, aujourd'hui, ce qui nous semble d'ailleurs innocent, à l'époque, au début du XXe siècle, pouvait parfois paraître dangereux. Hein. Il y avait beaucoup de bibliothèques rattachées aux paroisses au XIXe siècle et au XXe siècle, je crois jusqu'à une époque récente aussi. Et donc il y avait des conseils qui étaient publiés par un prêtre qui s'appelait d'ailleurs l'abbé Bethléem, hein, c'est un nom formidable pour un prêtre, de s'appeler Bethléem, qui publiait une revue dans laquelle il portait des jugements. Et quand on voit les jugements qu'il porte sur les romanciers, par exemple Alexandre Dumas, qu'on considère aujourd'hui quasiment comme un classique, on le trouve même dans des versions dans la Bibliothèque Verte pour la jeunesse, c'est considéré comme amoral. Donc surtout à ne pas lire, parce que Les Trois Mousquetaires, c'est des histoires d'adultère, de meurtre, de jugement de quelqu'un sans passer par la justice, de personnages qui mentent, qui trompent, donc tous les péchés sont réunis dans Les Trois Mousquetaires, donc il ne faut surtout pas donner ça à lire à la jeunesse. Hein. Et bon, je caricature un petit peu, mais Eugène Sue, très mal vu. Alors il y en a certains, oui, à lire avec précaution, à lire avec un adulte, bon, voilà. Mais, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ces romans, bien souvent, ils nous paraissent bien innocents, et souvent, bon, avec une fin heureuse qui aboutit effectivement à une morale tout à fait convenue, hein, de défense des valeurs de la France bourgeoise de l'époque, hein, c'est-à-dire la réussite, trouver sa place dans la société, gagner de quoi vivre et même largement si c'est possible. Bon.
Et la censure dans le roman populaire, ça existait, non?
Alors ça existait surtout sous le Second Empire. Hein, oui. Eugène Sue, ben, particulièrement, était très frappé par la censure. Après, ça a été plutôt la littérature de jeunesse, hein, qui était marquée par la censure, précisément toutes ces bandes dessinées auxquelles je faisais allusion au XXe siècle vont aussi.
Et est-ce qu'on connaît des opinions contemporains sur ce type de littérature ?
De contemporains du XIXe siècle ? Oui, oui, oui. Alors c'est... Bon, moi, je m'étais intéressé, par exemple, à la manière dont Zola réagissait. Il adore Dumas, par exemple, il adore Ponson du Terrail, mais pour lui, bon, il dit ce sont des conteurs. C'est pas des gens qui font le même métier que moi, finalement. Moi, je suis un romancier, mais eux. Il va aussi parler de Féval, bon, avec des opinions nuancées. Ce qui est frappant, c'est de voir que le phénomène du roman feuilleton à ses débuts est très critiqué. Par exemple, Sainte-Beuve, qui est le premier des critiques littéraires, hein, considère que la littérature va perdre beaucoup en étant publié dans la presse parce qu'on entre dans le monde de l'argent, le monde de la marchandise, hein, et pour lui, la littérature va y perdre son âme, donc c'est surtout à éviter. Et il y a beaucoup de critiques qui estiment aussi que ces romans sont de la littérature facile, qu'il faudrait mieux privilégier une littérature plus élaborée.
À partir de quel moment on différencie des gens comme Balzac, peut-être Dumas, de ces romans populaires? Quand est-ce que ça bascule finalement? Oui, c'est entre Panthéon qui sont canonisés en quelque sorte.
C'est compliqué, je dirais que c'est progressif, ouais, et ça dépend des auteurs. Quelqu'un comme Balzac, effectivement, pour les contemporains, comme Sainte-Beuve par exemple, il est placé exactement avec Dumas et Eugène Sue. Il est considéré comme un romancier qui est indigne de ce nom. Zola, par exemple, va être considéré comme romancier populaire jusque dans les années 1950. Et puis, à partir de 1950, Zola va peu à peu accéder à un rang de classique qu'aujourd'hui il a tout à fait, hein, en étant étudiant en classe. Balzac, ce sera un peu plus tôt, dans les années 1920 plutôt. Et c'est intéressant d'ailleurs de suivre l'entrée des auteurs dans les programmes scolaires. Ça, c'est très révélateur, à voir à quel moment on considère que ce sont des auteurs devenus des classiques. Par exemple, Dumas, Jules Verne, depuis une dizaine, quinzaine d'années peut-être, arrivent, mais ne sont pas encore tout à fait considérés comme...
On les a quand même fait rentrer dans la Pléiade.
Oui, voilà, Jules Verne vient d'entrer dans la Pléiade. Alors c'est vrai que la Pléiade, c'est un de ces moyens pour considérer qu'un auteur, Dumas, a eu quelques titres aussi dans la Pléiade. Mais
à partir de quand voit-on des feuilletons paraître dans les journaux, plutôt que sur des supports dédiés comme ça?
Les romans feuilletons, donc c'est 1836, hein, le début véritablement, dans les journaux quotidiens, oui. Mais il y avait eu déjà auparavant des romans publiés dans des revues. En gros, c'est dans les années 1820 à peu près que ces revues littéraires commencent à publier des textes. Mais il faut attendre que ce soit dans la presse quotidienne pour qu'il y ait véritablement le phénomène. Tous les romanciers du 19e siècle ont publié en roman feuilleton. Alors, pas toujours dans des quotidiens. Zola, lui, a publié dans ses romans paraissaient souvent dans des quotidiens. Avec des collègues, j'avais essayer de chercher un auteur qui n'aurait jamais été publié en roman feuilleton. On a trouvé Huysmans, un auteur dans la mouvance de Zola au début, ce qu'on appelle un petit naturaliste, et puis qui après s'est éloigné vers une littérature chrétienne. Alors Hugo a publié, c'est plutôt en fascicule, mais Les Misérables ont été réédités après en roman feuilleton.
Moi j'imagine que Ponson du Terrail ou même Les Mystères de Paris, c'est écrit un peu au jour le jour. Enfin, ouais,
c'est ce que j'allais dire, il y a une grande différence qui fait qu'on s'imagine toujours l'écriture au jour le jour, alors qui n'est pas tout à fait vrai. Souvent, les directeurs de journaux, au début, ils ont pris comme ça des auteurs qui disaient « voilà, ma copie, ça pour demain, puis demain j'apporte la suite ». Mais très vite, ils se sont rendus compte que c'était trop risqué, les auteurs étaient défaillants, n'apportaient pas à temps, etc. Donc, ils ont très vite exigé d'avoir au moins les deux tiers du roman déjà écrit avant de commencer la publication. Mais ce qui s'est produit assez souvent, c'est pour Dumas, Ponson du Terrail en particulier, la fin du roman, quelquefois, a été écrite au jour le jour. Et Zola a fait la même chose. Un certain roman était écrit aux trois quarts, quand ils ont commencé à paraître en feuilleton. Et puis la fin a été écrite très vite, parfois, avec... Même on a retrouvé des coquilles, hein, des erreurs. Bon, là, personne n'est à l'abri de cela.
Tous les feuilletons étaient dans les quotidiens ou ça pouvait être des hebdos dans les...
Ça pouvait aussi, oui. Alors, c'est plus facile, la parution hebdomadaire, oui.
Ce qu'on entend par littérature aujourd'hui, mm-hmm. est-ce que les gens qui jugeaient le roman populaire comme de la sous-littérature au 19e, ils entendaient la même chose que nous
Oui, c'est toujours la difficulté. Qui est capable de dire qu'est-ce que c'est que la littérature ? Et souvent, bon, on va dire ça, c'est de la littérature, ça n'en est pas. Mais si on demande aux gens, mais comment définissez-vous la littérature ? Alors, il y a des valeurs, il y a une dimension, un travail de la forme, souvent qui est mis en avant. C'est-à-dire que, effectivement, ces romanciers populaires ne sont pas des gens qui, comme Flaubert, vont écrire une page par jour en soignant le style, en avançant très lentement, puisque eux sont pressés, effectivement, d'arriver au bout et de savoir qu'ils vont publier. Bon, c'est aussi, il faut le préciser, une question financière. Hein. Beaucoup vivaient de ce qu'ils écrivaient, alors qu'on sait que quelqu'un comme Flaubert avait des rentes, à la limite, n'avait pas besoin de publier pour gagner sa vie. On arrive donc à deux conceptions qui, à mon avis, apparaissent bien à la fin du XIXe siècle, de manière très nette. Hein. C'est-à-dire que les auteurs qui veulent être reconnus, par exemple par l'Académie, par des récompenses, par une certaine notoriété, vont choisir de paraître plutôt tel éditeur que tel autre, tel collection plutôt que telle autre, et très vite il y a des collections marquées. Par exemple, chez Fayard, il y a ce livre populaire donc qui s'affiche bien en tant que tel, et Fayard va créer aussi une autre collection pour accueillir des auteurs qui sont quasiment tous des auteurs appartenant à l'Académie française, avec un prix plus élevé, un papier plus beau, des illustrations à l'intérieur, des frontispices, cul de lampe, etc. Donc des ouvrages beaucoup plus soignés. Et on voit bien que chez un même éditeur, il y aura les deux conceptions qui vont exister, coexister, hein, sachant qu'elles s'adressaient à des publics différents. Voilà, ben merci encore une fois.
Daniel, et puis on va lui dire à très bientôt.
À très bientôt, donc le mois prochain.
Voilà. La suite du feuilleton.
La suite
du
feuilleton. Merci beaucoup. Merci.